Semaine Sainte 2020, depuis le couvent des Dominicains de Toulouse, Office des Ténèbres.
Chers auditeurs, Emmanuel Pella pour vous accompagner à nouveau pendant ce samedi saint. Une grande joie de vous retrouver alors que toute l'Église universelle a plongé dans le grand silence du samedi saint. Grand silence à Jérusalem, grand silence à Rome, grand silence à Notre-Dame de Paris pour ceux qui ont peut-être suivi la vénération de la couronne d'épines. Et nous vous accompagnons, nous, dans notre région, depuis donc le couvent des Dominicains de Toulouse qui nous fait l'amitié de nous associer à leur prière pendant ce Triduum Pascal. Nous allons bientôt accompagner l'Office des Ténèbres, vous accompagner dans l'Office des Ténèbres avec aujourd'hui à nouveau le frère Gilles-Marie. Bonjour frère.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci de nous prendre par la main. Vous êtes à mi-chemin entre vous et nous et la communauté. Le samedi saint, est-ce que vous pourriez commencer peut-être par l'introduire? Qu'est-ce que ce jour a de spécial, frère Gilles-Marie?
Eh bien, Emmanuel, nous avons vécu le jeudi saint et célébré l'institution de l'Eucharistie. Le vendredi saint, hier, nous avons vénéré la croix. Cette nuit, nous chanterons la résurrection. Et aujourd'hui où il ne se passe rien, eh bien, il ne se passe rien justement parce que l'Église tout entière s'arrête. Elle se tient immobile volontairement devant son Seigneur, lui-même immobile dans le tombeau. Elle s'arrête parce qu'elle en a besoin. Elle prend son temps. Elle contemple la mort du Seigneur, son silence, son ensevelissement. Pensez, Emmanuel, lui qui, il y a 33 ans, s'était enseveli dans le sein de la Vierge pour y recevoir la vie. Maintenant que cette vie lui a été arrachée, le voilà enseveli de nouveau, mais au sein de la terre. Comment, Emmanuel, comment une telle aventure peut-elle s'achever si tragiquement? Les disciples ont vacillé. Pourtant, quand on y réfléchit, heureusement que Jésus est mort, sans quoi jamais il n'aurait pu ressusciter. Et donc nous non plus. Vous le voyez, il y a matière quand même à s'arrêter, à réfléchir, à rendre grâce.
Alors c'est le jour, comme on le dit donc la tradition, du grand silence. Néanmoins, on va participer donc à cette liturgie de l'Office des Ténèbres. C'est le troisième Office des Ténèbres. Dans le fond, qui est cette personne que nous accompagnons, dont nous parle l'Office des Ténèbres? Vous vouliez poser cette question énigmatique. Alors je vous laisse y répondre.
Eh bien voilà trois matins que nous célébrons cet office unique dans l'année. Et de plus en plus, notre prière se centre sur une certaine figure, un personnage qu'on appelle le juste. Le juste, c'est l'homme de bonne volonté qui affronte des épreuves, souvent des épreuves non choisies, qui voit sa vie mise en péril et pourtant qui, malgré et les malheurs et les ricaneurs, garde sa confiance en Dieu.
Oui, garde sa confiance en Dieu. Vous dites que c'est ce juste. Est-ce que vous pouvez préciser? Vous dites que c'est la figure du juste, mais on imagine que ça n'est pas une figure non plus en général.
Vous avez raison. Concrètement, le juste dans la Bible, c'est l'homme tel que Dieu le désire, la créature telle que il en a eu l'idée et telle que il voudrait qu'elle soit à son image. Alors hier, nous en donnions justement deux très beaux exemples, avec Jérémie et Job. Mais le juste qui est derrière, que l'on voit encore dans la pénombre, le juste par excellence, c'est le Christ Jésus. Et c'est pour ça que cet office est si prenant. Tout ensemble, c'est de Jésus et de nous, et de moi, et de vous, Emmanuel, et de chacun de nos auditeurs, qu'il s'agit. Cet office, il chante en même temps notre lien avec Jésus souffrant et notre foi dans le même Jésus sauveur. Alors, c'est rempli de chants, tous ceux qui étaient à l'antenne depuis deux jours l'ont bien vu, c'est rempli de chants, et évidemment, quand il y a beaucoup de chants, beaucoup de latitude de s'exprimer, ça intéresse les musiciens. Ici, à Rangueil, au couvent dominicain, nous suivons la version du frère André Gouze, qui est d'ailleurs un de nos frères de notre province, et cette version est un peu plus courte que la classique parce qu'elle est si riche en chants.
Alors cet office ne va pas tarder à commencer. Pour ceux qui le prendraient pour la première fois, ça commence par une lamentation du prophète Jérémie. Est-ce que vous pouvez peut-être redire un mot? Pourquoi est-ce qu'on commence à chaque fois par Jérémie dans cet office des ténèbres, le temps que les frères s'installent?
On commence par Jérémie parce qu'il est une figure, une annonce majeure du Christ dans l'Ancien Testament. Et voilà un homme qui a passer sa vie d'une part à subir des épreuves, et non seulement des épreuves qui lui arrivaient, des événements, mais surtout de ses contemporains. Et pourtant, il n'a pas arrêté de prêcher. Il n'a pas arrêté de remplir la mission que Dieu lui avait confiée. Et donc, il a, évidemment, dans cette longue carrière, il est arrivé qu'il gémisse, que les épreuves soient trop lourdes pour lui, et donc qu'il se lamente, qu'il pleure, annonçant d'une certaine façon Jésus qui pleure lui aussi quand la coupe est pleine, quand il voit Jérusalem souffrir, quand il voit Lazare mort. Et donc on reprend ce chant très évocateur pour annoncer en creux Jésus qui vient.
On peut dire aussi, rappeler donc aux éditeurs, pour ceux qui vont suivre, qu'il peut être bon de suivre avec une Bible sous la main. On donnera bien les numéros des psaumes au fur et à mesure. C'est une demande qui nous a été faite pour cet office qui commence donc par cette lamentation du prophète Jérémie.
Je suis l'homme qui a connu la misère sous la fête de Saturne. C'est moi qui l'a poussé et fait marcher dans les ténèbres et sans lumière. Contre moi seul, il tourne et retourne sa main tout le jour. Sa mère il m'a emmuré et je ne puis sortir. Il a rendu lourde mes chaînes. Enfin, je crie et j'appelle, il arrête ma prière. Il bave ma route avec des pierres de taille. Il obstrue mes sentiers. Aïe! Il a rendu impraticable mes sentiers, il m'a déchiré, il a fait de moi une ruine, il a bandé son arc et m'a visé comme une cible par ses flèches, il m'a saturé d'amertume, il m'a abreuvé d'absinthe. L'Éternel est bon pour qui se fie à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de s'asseoir solitaire et silencieux quand le Seigneur s'impose sur lui. il met sa bouche dans la poussière. Peut-être y a-t-il de l'espoir qu'il tende la joue à qui le frappe, qu'il sera sali d'affront. Jérusalem, Jérusalem, reviens au Seigneur, ton Dieu.
Voilà, la fin de cette lamentation du prophète Jérémie va commencer donc la première nocturne, frère Gilles-Marie.
Dans cette première nocturne, l'accent porte sur la mort. Non pas la mort comme destruction, telle que nous la connaissons trop bien, mais la mort envisagée comme un sommeil. D'ailleurs, la tradition de l'Église appelle Jésus tendrement, aujourd'hui, le bien-aimé qui dort. Il dort parce que, parfois, dormir est la condition de passer ailleurs. Et lui, maintenant, aujourd'hui, descend aux enfers. Les enfers, c'est le lieu des morts. Dieu ne les oublie pas. Jésus ne les oublie pas puisqu'il est venu tout rassembler dans l'unité.
C'est le psaume 4.
Ce psaume, le psalmiste évoquait « Je me couche et je dors ». Dans le suivant maintenant, le psaume 14, il interroge « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?» Après s'être interrogé lui-même, avoir interrogé le Seigneur, le psalmiste en tire la conclusion, même si Dieu ne lui a pas répondu par un songe. Il dit « Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent. »
Psaume 15.
Les lectures. Dans la première nocturne, ce sont toujours trois brefs passages de la Bible. Deux de l'Ancien Testament.
Dans le livre de la Genèse. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait Et au septième jour, il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés.
On dit que l'éducation repose sur la répétition intelligente et la liturgie met ce principe en œuvre très largement, en particulier dans le chant. Chaque psaume est accompagné d'une antienne, chaque lecture est accompagnée d'une réponse, c'est-à-dire d'une phrase qui en résume la moelle avec une mélodie qui s'imprime dans l'esprit. C'est ce qu'on fait ici avec l'idée de sabbat, de jour voué au repos de Dieu, de signe d'un monde qui est lié à Dieu. C'est maintenant une lecture d'un passage des Hébreux.
De l'Épître aux Hébreux. Nous entrons, nous les croyants, dans un repos, selon qu'il est dit, aussi ai-je juré dans ma colère, non, ils n'entreront pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu, certes, étaient achevées dès la fondation du monde, puisqu'il a dit quelque part au sujet du septième jour, « Et Dieu se reposa le septième jour de toutes ses œuvres. » Et de nouveau en cet endroit, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi donc, puisqu'il est acquis que certains doivent y entrer, et que ceux qui avaient reçu d'abord la bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur désobéissance, de nouveau, Dieu fixe un jour, un aujourd'hui, disant en David, après si longtemps, comme il a été dit ci-dessus, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Si Josué avait introduit les Israélites dans ce repos, Dieu n'aurait pas, dans la suite, parlé d'un autre jour. C'est donc qu'un repos, celui du septième jour, est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi se repose de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance.
Et dans la liturgie, ce n'est pas la musique qui est première, c'est le texte qui souvient de la parole de Dieu. Et pourtant, le rôle de la musique est fondamental, parce que c'est elle qui donne l'ambiance et qui, d'un coup, saisit et rassemble tous les fidèles. Elle les rassemble dans une certaine unité de ceux qui écoutent, alors que dans leur personne, ils sont si différents. Alors, la musique du répond que nous allons entendre maintenant manifeste la primauté de Dieu. C'est lui qui prend l'initiative. Et elle évoque discrètement sa paternité. D'un côté, sa tendresse pour ses enfants, et de l'autre côté, l'autorité de celui qui a tout conçu. Il y a comme une alternance entre...
De la première épître de saint Pierre. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avait refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui, passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les anges, les dominations et les puissances.
Il y a comme une alternance dans la liturgie entre les textes et la musique. Les textes sont donnés et la musique est libre et elle permet beaucoup de choses. Dans le réponse précédent, par exemple, c'est Dieu qui intervenait. Ici, dans le réponse qu'on va prendre, c'est le juste qui s'épanche à son tour. C'est son droit et c'est même son devoir parce que c'est ainsi que nous connaissons son cri. Ce cri que la musique envoie rejoindre le nôtre qui est peut-être encore un peu trop silencieux. Dans ce premier nocturne qui vient de s'achever, l'accent portait donc sur la mort comme un sommeil plutôt que comme la dévastation qu'elle est d'habitude. Dans le deuxième nocturne, on en tient compte et on la regarde comme un passage. On arrive même à voir les portes au loin, les portes célestes qui s'entrouvent, qui promettent de s'entrouvrir.
Ni le jugement tombé sur vos chemins, par lui la bénédiction.
sommes donc dans la deuxième nocturne de cet office des ténèbres, pour rappel depuis le couvent des Dominicains à Toulouse, et suivre le psaume 26. Psaume 29, je t'exalte Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser les ennemis se rire de moi.
Seigneur, tu as pardonné, ô mon
après les trois psaumes.
Je t'exalte, Seigneur, moi qui me relève, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, toi j'ai prié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as guéri.
Alors que à la fin de chaque psaume, une bougie est éteinte sur le chandelier qui est devant l'autel de la chapelle des Dominicains du couvent de Toulouse. Il va donc suivre des lectures du sermon de Saint Épiphane. Il nous donnera un commentaire, frère Gilles-Marie, après chacune des lectures.
D'un sermon de Saint Épiphane, évêque. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est mort dans la chair et les enfers ont tressailli. Dieu s'est endormi pour un peu de temps et il a réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans ses liens et Ève, captive avec lui. Lui, qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Descendons donc avec lui pour voir l'alliance entre Dieu et les hommes. Là se trouve Adam, le premier père, et comme premier créé, enterré plus profondément que tous les condamnés. Là se trouve Abel, le premier mort, et comme premier pasteur juste, figure du meurtre injuste du Christ pasteur. Là se trouve Noé, figure du Christ, le constructeur de la grande arche de Dieu, l'Église. Là se trouve Abraham, le père du Christ, le sacrificateur, qui offrit à Dieu par le glaive et sans le glaive un sacrifice mortel sans mort. Là demeure Moïse, dans les ténèbres inférieures, lui qui a jadis séjourné dans les ténèbres supérieures de l'arche de Dieu. Là se trouve Daniel, dans la fosse de l'enfer, lui qui jadis a séjourné sur la terre, dans la fosse aux lions. Là se trouve Jérémie, dans la fosse de boue, dans le trou de l'enfer, dans la corruption de la mort. Là se trouve Jonas, dans le monstre capable de contenir le monde, c'est-à-dire dans l'enfer, en signe du Christ éternel. Et parmi les prophètes, il en est un qui s'écrit « Du ventre de l'enfer, entends ma supplication, écoute mon cri. » Et un autre « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. » Et un autre « Fais briller sur nous ta face, et nous serons sauvés. »
Cette lecture de saint Épiphane nous donne à entendre un père qui n'est pas très célèbre dans le grand public, mais qui l'est parmi les savants, puisque il est le premier à avoir écrit un ouvrage qui récapitulait toutes les hérésies en circulation à son époque. Et son époque, c'est le IVe siècle, puisqu'il est mort en 402. Saint Épiphane était un juif converti qui est devenu évêque de Chypre et qui a eu une grande influence comme théologien. Ce IVe siècle qui est fameux par la libération de l'Église et par la floraison des grands théologiens. C'était aussi un grand prédicateur, comme nous venons de l'entendre dans cette méditation où il convoque les grands personnages de l'Ancien Testament.
Oh, my name.
va suivre donc une autre lecture, toujours un sermon de Saint Épiphane.
Mais comme par son avènement le Seigneur voulait pénétrer dans les lieux les plus inférieurs, Adam, en tant que premier père et que premier créé de tous les hommes, et en tant que premier mortel, lui qui avait été tenu captif plus profondément que tous les autres, et avec le plus grand soin, entendit le premier, le bruit des pas du Seigneur qui venait vers les prisonniers. Et il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Et s'adressant à ceux qui étaient enchaînés avec lui depuis le commencement du monde, il parla ainsi: j'entends les pas de quelqu'un qui vient vers nous. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Et lorsque le premier père, Adam, le vit, plein de stupeur, il se frappa à la poitrine et cria aux autres: mon Seigneur soit avec vous. Et le Christ répondit à Adam: et avec ton esprit. Et lui ayant saisi la main, il lui dit: éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu, et à cause de toi je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici, enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts. Je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Toi, mon effigie, qui a été faite à mon image. Lève-toi, partons d'ici. Car tu es en moi et je suis en toi. À cause de toi, moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils. À cause de toi, moi, ton Seigneur, j'ai pris la forme d'esclave. À cause de toi, moi qui demeure au-dessus des cieux, je suis descendu sur la terre et sous la terre. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j'ai été livré aux Juifs dans le jardin et j'ai été crucifié dans le jardin.
On a ici un exemple excellent de ce que peut donner un grand prédicateur. Il se trouve devant un article d'une confession de foi que nous disons tous les dimanches: Jésus est descendu aux enfers. Et alors on se demande qu'est-ce qui a pu se passer. Et le prédicateur, justement, répond à cette interrogation. D'un côté, il tient fermement la doctrine, et de l'autre côté, il imagine ce qui s'est fait, ce qui s'est dit entre le Christ visiteur et tous ceux qui attendent ainsi depuis si longtemps. Et ce qu'il dit a le sceau de l'authenticité.
Aujourd'hui, le Seigneur les a éborgés de ma mort.
Suivre à nouveau une lecture d'un sermon de saint Épiphane.
Regarde sur mon visage les crachats que j'ai reçus pour toi, afin de te replacer dans l'antique paradis. Regarde sur mes joues la trace des soufflets que j'ai subis pour rétablir en mon image ta beauté détruite. Regarde sur mon dos la trace de la flagellation que j'ai reçue afin de te décharger du fardeau de tes péchés qui avait été imposé sur ton dos. Regarde mes mains qui ont été solidement cloués au bois à cause de toi qui, autrefois, a mal étendu tes mains vers le bois. Je me suis endormi sur la croix et la lance a percé mon côté à cause de toi qui t'es endormi au paradis et a fait sortir Ève de ton côté. Mon côté a guéri la douleur de ton côté. Et mon sommeil te fait sortir maintenant du sommeil de l'enfer. Lève-toi et partons d'ici, de la mort à la vie, de la corruption à l'immortalité, des ténèbres à la lumière éternelle. Levez-vous et partons d'ici et allons de la douleur à la joie, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté, de la captivité aux délices du paradis, de la terre au ciel. Mon Père céleste attend la brebis perdue. Un trône de chérubin est prêt. Les porteurs sont debout et attendent. La salle des noces est préparée. Les tentes et les demeures éternelles sont ornées. Les trésors de tout bien sont ouverts. Le royaume des cieux, qui existait avant tous les siècles, vous attend.
Ce qui frappe dans cette interpellation que Jésus fait à Adam au profond des enfers, c'est sa vraisemblance, c'est sa sincérité. Et comme il a pris soin de rassembler tous les personnages de l'Ancien Testament, nous nous trouvons inclus, nous aussi, dans ce dialogue. C'est comme s'il s'adressait à Adam et à nous, en même temps. Et c'est ainsi que s'accomplit le miracle, peut-on dire, de la liturgie, de nous saisir et de nous faire pénétrer dans le mystère.
Thank you.
dans la troisième nocturne de cet office des ténèbres, pour rappel pour ceux qui nous rejoindraient depuis le couvent des Dominicains à Toulouse, où nous sommes à l'occasion de ce tridium pascal. Dieu, viens à mon secours, il est le soutien de ma vie. Puis le psaume 53. Maintenant le psaume 75, précédé d'un antienne.
Et le Saint-Esprit est chargé de la colère.
suivre maintenant le psaume 87. Tandis que dans l'église, le dernier chandelier, son dernière bougie du chandelier qui fait face à l'autel, sont éteintes. Extrait à nouveau le sermon, cette fois de Saint Jean Damascène, suivi de trois réponses.
D'un sermon de Saint Jean Damascène, prêtre. Christ en croix, venons à lui. Devenons participants de ses souffrances pour avoir part aussi à sa gloire. Christ parmi les morts, mourons au péché afin de vivre pour la justice. Christ, dans un tombeau neuf, purifions-nous du vieux levain et devenons une pâte nouvelle pour être un lieu de repos pour le Christ. Christ aux enfers, descendons avec lui dans l'humiliation qui élève, afin de ressusciter avec lui, d'être exaltés avec lui, glorifiés avec lui, voyant Dieu toujours et toujours vu par lui. Vous qui êtes du monde, soyez libres. Vous qui êtes liés de bandelettes, sortez. Vous qui êtes dans la ténèbre, ouvrez vos yeux à la lumière. Soyez relâchés, vous les captifs. Aveugles, levez les yeux. Réveille-toi, Adam qui dort. Relève-toi d'entre les morts, car le Christ, la résurrection, est apparu. Celui qui trône sur les chérubins est pendu sur la croix comme un condamné. Lui, la vie des hommes, en laquelle n'ont pas cru les meurtriers de Dieu en la voyant pendue sur le bois. Celui qui a fait l'homme de ses mains de Dieu a étendu tout le jour des mains pures vers un peuple rebelle qui suivait une voie mauvaise. Et il remet son âme entre les mains du Père. Avec une lance, et percé le côté de celui qui a créé Ève du côté d'Adam. L'eau et le sang divin en ruissellent, boisson d'immortalité et baptême de renouveau. C'est pourquoi le soleil est obscurci, ne pouvant voir maltraiter le soleil de justice. Et la terre tremble, aspergée du sang du Seigneur, purifiée de l'idolâtrie et bondissant de joie pour cette purification.
Ces pères que l'on entend dans les lectures, ils incarnent la tradition de l'Église. La tradition, en fait, c'est l'Église qui reçoit la Sainte Écriture, la parole de Dieu, et qui lui fait porter tout son fruit. Elle n'y ajoute rien, mais elle la déploie, un peu comme une fleur qui éclot. Alors, hier, les deux pères choisis étaient le premier, si vous en souvenez, Saint Éphrem, le Syrien, au IVe siècle, et le deuxième, Saint Germain, au VIIIe siècle. Aujourd'hui, de même, le premier, Saint Épiphane, qu'on a entendu dans la première nocturne, était du IVe siècle. Et Saint Jean de Damas, lui, est mort en 749, donc il est le représentant du VIIIe siècle. On le considère même comme le dernier des pères de l'Église.
suivre une troisième lecture, toujours un sermon de Saint Jean Damascène. Deuxième lecture, pardon.
Celui qui avait inspiré un souffle de vie à Adam pour en faire une âme vivante est déposé dans un tombeau, mort, sans vie. Celui qui avait condamné l'homme à retourner à la terre est devenu du nombre de ceux qui sont oubliés dans la terre. Les portes des reins sont brisées, les barres des portes sont détruites, les portes éternelles se lèvent, le gardien des enfers frémit. Celui qui est libre du péché est compté au nombre des morts, et celui qui a détaché Lazare de ses liens est enveloppé de bandelettes pour détacher de ses chaînes l'homme mort à cause du péché et enserré par ses liens et le renvoyer libre. Maintenant, le roi de gloire descend vers le tyran, lui le vaillant des combats qui a son lever à l'Orient, dont la course atteint l'autre limite, et qui se réjouit, vaillant, de courir sa carrière. Maintenant, les enfers deviennent ciel. L'Hadès est rempli de lumière. Les ténèbres qui autrefois faisaient peur s'éloignent, et les aveugles recouvrent la vue. Car le soleil levant, lumière d'en haut, visite ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort.
Jean de Damas a commencé sa vie comme personnage très important. Et puis, un jour, il a tout quitté, il s'est fait moine. Moine à la façon orientale, c'est-à-dire se retirant du monde et menant une vie ascétique, mais ayant aussi une activité pastorale. Et donc, il a été à la fois un grand théologien et un grand prédicateur, comme nous l'entendons dans cette homélie où il fait ressortir la victoire irrésistible du Christ sur la mort.
Thank you.
un serment de Saint Jean Damascène.
Écoutons, nous qui ne voyons pas, et croyons à la nouvelle de ceux qui sont les évangélistes de la paix. Car le bras de Dieu et sa puissance nous sont révélés. Car si nous écoutons, nous serons glorifiés, contemplant dans l'humiliation, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, et voyant dans son aspect défiguré la beauté qui dépasse toute beauté. S'il est vu, pendu sur le bois, sans beauté et sans gloire, mourant à cause de tous les hommes, il est pourtant la splendeur de la gloire du Père. Il donne sa robe en partage aux soldats. Mais ressuscité des morts, il enverra au-devant des nations les disciples qu'il avait choisis. Et lui-même sera la robe du baptême pour les fidèles. Car vous tous, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Par-dessus tout, ayons donc les sentiments qui furent ceux du Christ Jésus, qui nous a aimés alors que nous étions des ennemis. Alors, nous recevrons l'ancienne franchise. Alors, nous fêterons l'exode du Seigneur Dieu, et la vie de l'Église sera dans la paix. Alors, nous irons rayonnants, avec des flambeaux allumés, à la rencontre du vainqueur de la mort, de l'époux immortel. Et le visage découvert, nous contemplerons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Alors, nous jouirons de sa beauté.
Pour faire comprendre les profondeurs de l'Écriture et du mystère chrétien. Et si on les écoute dans le contexte de la liturgie, avec toute cette solennité, ils ont cette capacité de nourrir notre espérance et de nous faire adhérer profondément au mystère que nous célébrons. Ils nous tirent d'une certaine torpeur de l'esprit et ils nous mettent d'équerre, ils nous mettent en plein dans le mystère tel que l'Église le vit en permanence.
Thank you.
C'est maintenant la conclusion de l'office.
Ils sont.
Sur la croix a attiré toute chose vers toi, Christ, prends pitié. Toi qui as annoncé prophétiquement aux morts, je serai ta mort, Christ, prends pitié. Seigneur s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et les frères se mettent à genoux, comme dans le récit de la Passion au moment de la mort de Jésus. C'est un geste que nous pouvons faire à notre manière, là où nous sommes, selon notre santé. Et nos moyens, nos possibilités.
Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants, ni de subir le supplice de la croix.
C'est la fin de cet office des ténèbres. Merci à vous, frère Gilles-Marie, de nous avoir accompagnés pour cet office. Un grand merci. Les prochains rendez-vous en ce jour, 12h30, office de sexte, 19h, les vêpres, et à 22h, la vigile pascale. 12h30, sexte, 19h, vêpres, 22h, vigile pascale. Toujours au couvent des Dominicains à Toulouse, à l'occasion de cette semaine sainte. On remercie chaleureusement cette communauté de nous avoir accueillis, de nous aider à vivre ce tridième pascal. Peut-être pour finir un mot, Il y a une chose que l'on peut ajouter en ce samedi saint, c'est cette vénération exceptionnelle du Saint-Suaire de Turin qui est proposée. Le pape François a remercié l'archevêque de Turin pour cette exposition, cette vénération exceptionnelle. C'est ce soir à 17h, par bien des moyens de communication, à vous de chercher, par les réseaux sociaux ou par les télévisions. 17h, la vénération exceptionnelle du Saint-Suaire de Turin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h30, donc pour l'office de sexte, office mineur.